Ma grand-mère est morte l'année dernière, elle avait 101 ans. Il a fallu vider sa maison, et ma mère, sa fille, m'a demandé ce que je voulais garder d'elle, quel objet, quel meuble. Alors j'ai dit rien, évidemment, des papiers. Enfin, tous les papiers que tu trouves. Hein. Est-ce que ça m'intéresse tant que ça, d'ailleurs, les papiers, les archives, j'en suis pas convaincu, mais enfin, voilà, je suis historien. Il faut bien, de temps à autre, que je fasse ce que l'on attend d'un historien, c'est-à-dire ceux qui sont socialement chargés d'aller toucher les archives. Bon, peu importe, de toute façon, puisque ma mère a fait ce qu'on attend aussi d'une mère, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas écouté, elle a jugé bon de jeter toute la correspondance de ses propres parents avant leur mariage. Je lui ai demandé, mais pourquoi ? Et elle a répondu, mais parce que ça me gênait, au fond, je n'allais pas lire des lettres qui ne m'étaient pas adressées, puis de toute façon, elles étaient en allemand. Et ce geste-là, au fond, cette volonté de ne pas savoir, qui fait une passion ordinaire, assez belle, au fond, je la comprends très bien. En tout cas, je me refuserais absolument de la condamner comme sacrilège. On a le droit de se débarrasser de tout ce fatras. On a le droit de ne pas s'y intéresser. En fait, elle a fait, non seulement elle ne m'a pas écouté, mais elle a fait exactement le contraire de ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire qu'elle a recherché, ma mère, pour l'essentiel, des souvenirs, mais des souvenirs qui concernaient son fils unique, c'est-à-dire moi. Moi, en interrogation, pour citer le dernier mot de Claude Simon dans l'histoire, qui repose précisément sur une collection retrouvée de cartes postales documentant les fiançailles de ses parents, qui n'avaient pas jeté. Une caisse, donc, avec des reliques de la période vraiment glorieuse de ma vie, c'est-à-dire mes études jusqu'à la maîtrise en 1987, ensuite après ça se capte. Et cette maîtrise en 1987 était consacrée à le duel dans la société militaire du consulat et de l'Empire. Je l'avais perdu, et donc je l'ai retrouvé là, parce que c'était un souvenir de moi, de ma grand-mère. Je l'avais perdu, mais je me souvenais que je l'avais mis en exergue de ce premier exercice académique, un passage des Géorgiques de Claude Simon. Je ne me souvenais plus lequel. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai expliqué hier, c'est que voilà, ça a été le livre qui m'a décidé, au fond, à être d'une certaine manière historique. J'avais mis une exergue de Claude Simon, je ne me souvenais plus laquelle, et entre-temps, j'avais aussi moqué cette habitude des historiens de placer des exergues rutilants en avant de leurs livres, de leur production ordinaire. J'avais même remarqué qu'à vue de nez, Claude Simon était le champion de toute catégorie de ces exergues, parce que, justement, elles ennoblissent. Le travail des historiens, c'est-à-dire qu'elles mettent en avant ce que les liturgistes du Moyen-Âge appelaient le decus, c'est-à-dire cet ornamentum qui orne et qui décore et qui honore le pouvoir. Et d'une certaine manière, les historiens indélicats, c'est bien connu, entrent dans les morts comme dans des moulins, et ils viennent y trouver tout ce qui les arrange, au fond. Et ces œuvres qui sont livrés au pillage d'un devenir slobo, comme celle aujourd'hui justement de Walter Benjamin, eh bien, elles deviennent des réserves de mots de passe. Et malheureusement pour les historiens, Claude Simon, c'est ça aussi. Et évidemment, ce que je cherche, moi, dans la littérature aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la part irrécupérable. C'est ce que, là encore, les liturgistes du Moyen-Âge qui s'intéressaient à ce que c'était qu'un remploi. Comment on peut remployer dans une église que l'on construit des ruines antiques? Eh bien, évidemment, on va tenter de relever les dépouilles, mais on ne s'y trompera pas. On sait aussi que tout n'est pas récupérable, et qu'il y aura de la perte, et qu'il y a effectivement de l'inassimilable. Alors, quel exergue? Je croyais me souvenir que c'était celle-ci. Je vais vous la lire. C'est à la fin de la première partie du livre, ce staccato du général, vous savez. Lorsque l'on tourne les pages des registres en les tenant inclinés, De fines particules couleur rouille aux facettes scintillantes et dorées comme du mica se détachent des lettres et glissent sur les feuilles. On dirait que les mots, assemblés, les phrases, les traces laissées sur le papier par les mouvements de troupes, les combats, les intrigues, les discours, s'écaillent, s'effritent et tombent en poussière, ne laissant plus sur les mains que cette poudre impalpable, couleur de sang séché. En fait, je me trompais. C'était pas celle-là. Mais c'était une autre. On verra si la mémoire me revient. C'était une autre, et celle-là, je l'avais lue ailleurs. Parce que, évidemment, les souvenirs, quand ils nous trompent, c'est juste qu'ils se déplacent. Tant mieux du reste, parce que cette citation décrit justement, de manière, à mon sens, trop canonique, trop évidemment académique, désormais, le fétichisme de l'archive dans lequel je ne me reconnais pas. C'est un thème littéraire qui est très fort, y compris chez Claude Simon, évidemment, lui-même, cette image qui revient souvent depuis au moins la route des Flandres, je cite, c'est page 51. Et lui semblait voir les feuillets, les paperasses jaunies, sillages de débris surnageants, morceaux, parchemins, semblables à des fragments d'épiderme, tels qu'en les touchant, il lui semblait toucher au même moment, un peu racorni, un peu desséché, comme ses mains tavelées des vieillards légères, fragiles et immatérielles, prêtes, semble-t-il, à se briser et tomber en cendres lorsqu'on les saisit, mais néanmoins vivantes, par-delà les années, le temps supprimé, comme l'épiderme même des ambitions, des rêves, des vanités, des futiles et impérissables passions. Et, oui, Michel disait tout à l'heure, c'est un poteau d'angle, c'est un avertissement d'incendie pour nous, que l'œuvre de Claude Simon. Et tout est là, dans cet avertissement sur la matière friable de l'histoire, ce délitement, cette peau cassante des mains et des parchemins. Et c'est ce qu'il y avait de bouleversant pour moi dans la lecture de Géorgique, qui est un peu mon après-guerre. Je veux dire la compréhension que, alors que voilà, j'étais né bien après, je vivais quand même une après-guerre. Enfin, réfléchir au rapport entre la littérature et l'histoire, ça ne peut pas être seulement cela. Ça ne peut pas être seulement repérer des motifs qui se déplacent ainsi par analogie. Et d'ailleurs, si on cite la phrase que je croyais être mon exergue, mais qui ne l'était pas, qui était celle d'un autre livre, on dirait que les mots assemblés, etc., il faut avoir le courage. Oui, le courage de la lire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la sensation finale, ne laissant plus sur les mains que cette poudre impalpable, couleur de sang séché, il écrit « Que me font à moi une fortune et des honneurs, dont le plus grand prix eût été de les partager avec cette femme adorée ensevelie dans le néant depuis si longtemps, et dont le souvenir, après 20 ans, me déchire le cœur. » En fait, maintenant, puisque j'ai découvert, dans cette caisse, de souvenirs de ma grand-mère, mais de souvenirs qu'elle gardait de moi, mon exemplaire, je sais désormais que c'est une autre citation que j'avais utilisée. C'est celle à la fin où l'oncle Charles explicite le roman lui-même en une longue glose explicative. C'est page 445, des Géorgiques toujours, et je vous le lis. C'est la voix de l'oncle Charles disant « Ils sont à ta disposition si ça t'intéresse. Peut-être es-tu encore trop jeune, mais plus tard, quand tu seras vieux toi-même, je veux dire, quand tu seras capable non pas de comprendre, mais de sentir certaines choses parce que tu les auras toi-même éprouvées. C'est à la fois fastidieux et fascinant. Parce que pour le plus clair, il s'agit de mouvements de troupes, de tableaux d'effectifs et d'inventaires de matériel, comme dans tous les spectacles à grande mise en scène, même intimistes, des mois de fastidieuses répétitions et des tonnes de machinerie à seule fin de permettre au ténor ou à l'héroïne tuberculeuse, de lancer avec grâce dans une suprême apothéose le dernier et sublime contre-ut avant de s'affaler et mourir. Comme si l'histoire était avant tout une affaire de comptable, et de longues additions de chiffres dont le bilan se résume en quelques minutes de fracas et de meurtres. Cette adresse, donc, je l'ai fait mienne, puisque je ne dirais pas que les Géorgiques m'ont fait historien, mais que ce livre m'a décidé à tenter de le devenir malgré tout, de le devenir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il m'a averti de la difficulté de ce travail. Et cet avertissement, c'est celui que n'importe qui de ma génération a pu recevoir. Cet avertissement, c'était celui de l'époque. C'était celui du grand livre de Michel de Certeau, L'écriture de l'histoire, 1975. Depuis ce moment-là, tout le monde savait, ou tout le monde pouvait savoir de quoi il était question dans le fait d'écrire l'histoire, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'historien de créer son propre lieu d'histoire. Voilà pourquoi donc je vais traiter ici de la lecture de Claude Simon comme d'un défi lancé aux historiens. Une prose qui se libère du souci d'assouvissement de l'intrigue, comme l'a dit Jean-Paul Gout, et cette prose du continu qui fait du roman l'art du temps. Cette prosa de la pulsion qui fabrique de l'épaisseur, qui va de l'avant, a-t-il dit. Je dirais, quant à moi, qu'elle trahit l'histoire, mais elle la trahit au double sens du terme, c'est-à-dire qu'elle la révèle à elle-même en lui étant infidèle. Et pour le comprendre, eh bien, voilà, je vais rester sur les Géorgiques. Essayez de comprendre en quoi ce livre n'est pas devenu un roman historique. Qu'est-ce qui l'a empêché de le devenir? On le sait, c'est la résistance de Claude Simon vis-à-vis de la nomination et vis-à-vis de la référentialité. La nomination et la référentialité, eh bien, c'est ce qui fatalement entrave l'essor de l'analogie. Or, évidemment, dans ce livre, l'analogie généralisée produit des rimes de l'histoire et on revient dans les mêmes lieux, on a froid pareillement, le lien entre la guerre et la révolution se défait, mais on continue à vouloir faire l'histoire quand même, et les trois protagonistes qui sont noyés dans le île indistinct, c'est-à-dire, comme vous le savez peut-être si vous l'avez lu, donc le général qui est appelé LCM, Lacombe Saint-Michel, Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, un des ancêtres de Claude Simon pendant la Révolution, et puis Claude, un narrateur qui, disons, a vécu la route des Flandres, et puis quelqu'un qui s'appelle O, et qui a été engagé volontaire pendant la guerre d'Espagne en 1937. Et ce île indistinct, il est lui-même, il en arrive lui-même à être défait, mais pris dans la toile analogique tissée par l'araignée simonienne. Et on sait que l'opérateur de cette analogie, c'est justement ce lien virgilien entre la terre et la guerre. Voilà. Celui qui a, me semble-t-il, dit ça très simplement et d'emblée, c'est Lucien d'Allenbach dans un article de critique qui s'appelle « Les Géorgiques ou la totalisation accomplie » 1981. Et il y a là, c'est comme ça que ça se termine, cet article, une phrase étonnante que je voudrais interroger devant vous. Il dit au total, une composition concertante qui laisse toutes leurs chances aux diverses composantes de l'ensemble, et en cela, c'est le premier grand roman républicain. C'est un peu comme ça. Alors on comprend bien pourquoi, républicain, ça veut dire qu'il s'est donné lui-même sa propre loi, et en même temps, il est composé de ces énoncés qui peuvent vivre leur vie propre. Mais c'est quand même une expression un peu étrange pour un écrivain si évidemment despotique. Je veux dire qu'il impose de manière si despotique l'attention de son lecteur, qu'il exige. Et pourtant, comme l'a dit Ravet, la nature du roman, c'est d'accepter la faiblesse du lecteur, qui ramène toujours tout à lui, qui devient nécessairement le détenteur personnel de ce qu'il lit. Mais justement, quand ce lecteur est un historien, alors la prose simonienne est une mise en langue de la propre faiblesse de l'histoire. c'est-à-dire ce qu'il y a d'inévitablement mensonger dans une succession ordonnée de faits, de dates, de causes. Aussi, une des réponses possibles à ce défi lancé aux historiens, c'est tellement bouleversant, c'est tellement évidemment définitif, une des réponses possibles, celle que vient de refuser Michel, c'est l'abandon. C'est de dire, d'accord, très bien, on arrête. Pour les mêmes raisons que lui, je tiens ce renoncement pour politiquement inconséquent. À la question du palace, mais comment était-ce ? On ne peut pas seulement opposer celle de la route des Flandres, comment savoir ? Parce que, évidemment, la phrase de Claude Simon répond à l'une et à l'autre. Elle est un défi aux historiens qui doivent toujours assumer, je dirais, un double registre narratif qui, parce qu'ils ont lu Claude Simon et les autres, savent que le propre de l'enquête, c'est de tenter de construire un récit ordonné, mais qui est aussi ordonné par la certitude qu'il est très difficile de le mener. Mais cette question, comment était-ce, dont nous a parlé Dominique Villard, c'est aussi une question sociale. Renoncer à y répondre simplement, c'est risquer que d'autres y répondent. Moins scrupuleux, peut-être moins bien intentionnés, en tout cas moins méthodiques. On ne manquera jamais de gens sur les plateaux de télévision pour répondre simplement à cette question, comment ça s'est passé. Si jamais les historiens ne veulent plus répondre à cela. Aussi, ce double registre narratif, qui est celui de l'histoire depuis la nouvelle histoire, dont on pourrait dire ce qu'on peut dire du roman depuis le nouveau roman, c'est-à-dire ce que Paul Veil disait de Michel Foucault. Michel Foucault a révolutionné l'histoire, c'est fait. Il n'a plus à se dire Foucaldien, pas Foucaldien, on dit Foucaldien. C'est fait une fois pour toutes. Toute histoire est une nouvelle histoire. Et son triomphe, comme le nouveau roman, est dans sa disparition. Ce double registre, on peut le lire dans ce brouillon d'histoire, justement, que Mireille Karl Gruber cite dans sa biographie. Claude Simon, au moment de préparer l'histoire, a noté toutes les définitions du mot « histoire » dans le livre. Y compris celle-ci, dans le langage familier, se dit pour un objet quelconque qu'on ne peut ou ne veut pas nommer. Exemple, montre-moi ton histoire. Et dans la marge, il écrit ceci. Histoire, deux temps. Un, l'écrire pour moi. Deux, rendre cet écrit communicable. Alors, dès lors, que faire ? La réponse la plus courante, je l'ai dit, c'est l'exergue. On place du Claude Simon en avant, comme une mise en arrière, pour signaler qu'on n'est pas dupe, et puis après, on va à ses petites affaires. Mais c'est une opération évidemment bien périlleuse, parce qu'elle risque de miner l'ensemble, de miner tout le discours historien. Je voudrais ici parler d'une troisième exergue, celle placée au-devant de l'égo-histoire, que Pierre Nora avait demandé à Georges Duby et paru dans les essais de l'égo-histoire de 1987 sous le titre « Le plaisir l'historien ». Ce plaisir, ce texte de Duby qui est très embarrassé, il accumule les faux départs. Le premier départ, c'est justement une exergue de Claude Simon. Le récit qu'il m'en fit fut sans doute lui-même faux, artificiel, comme est condamné à l'être tout récit des événements faits après coup, de par le fait même qu'à être raconté, les événements, les détails, les menus faits prennent un aspect solennel, important, que rien ne leur confère sur le moment. Fermé, les guillemets, Claude Simon. Il n'explicite pas la référence. En fait, c'est dans Le Vent, dont Dominique Viard nous a dit combien c'était un roman âpre, radical, faulknerien, qui d'une certaine manière portait en lui à la fois la récusation de l'œuvre antérieure et une critique, une satire en fait, du roman balzacien. Donc placé en exergue d'un texte où normalement l'historien doit se faire historien de lui-même, cette référence à un roman qui ruine toute possibilité même de témoignage, c'est effectivement miner le discours, vraiment au sens de miner les piles d'un pont, c'est-à-dire que ça ne devrait pas tenir. Le deuxième faux départ, ça commence comme ça, en italique. Georges Duby est né le 7 octobre 1919 à Paris, à deux pas de la République. L'appartement donnait sur la cour. Cette cour fut son premier terrain de jeu. Alors là, on a l'impression que commence un récit à la Georges Perec qui invite son lecteur à prendre le parti pris des choses menues, parfumant les souvenirs d'enfance, entre les pavés, un peu de mousse ici et là, et puis cette odeur de cuir sauvage et douce, et ça s'arrête. Passage au roman. Longtemps, à vrai dire jusqu'à cet instant où j'entreprends la rédaction définitive, mon projet fut d'écrire à la troisième personne, dans le dessein de mieux garder mes distances. J'ai renoncé, craignant de sembler affecté. Je reste du moins décidé à tenir des gardes. Il est difficile de plus, de moins, assurer ce qu'on a à dire que dans cette succession de trois faux départs. Et ce texte m'avait toujours intrigué. Et il se trouve que j'ai retrouvé dans les archives de Limay, parce que voilà, je travaille sur les archives de Duby en ce moment, un avant-texte abandonné, mais conservé, donc réservé, marqué Ego Histoire, première version, mai 1983. On est donc vraiment dans cette ambiance-là, des chirurgiques. Et par rapport à la version publiée, la principale différence saute aux yeux, voilà son nom qui bite. Dans l'été 1914, quelques jours avant la mobilisation générale, les parents de Georges Duby avaient fêté leurs noces. Et effectivement, il parle de lui à la troisième personne, il s'appelle G.D., dispositif d'anonymisation bien connu chez Claude Simon, et j'ai un médiéviste, donc quand je découvre un texte, je vois l'incipit et l'explicit, le premier mot et le dernier mot, et bien c'est cela. Fort sensible aux honneurs de cette espèce, il se surprend pourtant parfois à tenir pour un autre celui dont on parle autour de lui en prononçant son nom. Donc, c'est comme un roman d'apprentissage, et particulièrement dans sa forme médiévale du roman courtois, où le héros chevaleresque se trouve jeté dans l'aventure, en quête de son nom propre. Il le retrouve à la fin, mais sans s'y reconnaître tout à fait, et cet effet d'étrangeté entre le « je » et le « moi » que creuse la fiction même de l'écriture, c'est évidemment l'intrigue même du nouveau roman que ce nouvel historien a voulu, sur lequel il s'est risqué, d'une certaine manière. Donc, tout était vrai. L'exergue de Claude Simon, l'essai d'autofiction, le renoncement, Georges Duby ne feinte pas lorsqu'il dit « longtemps j'ai voulu et puis j'ai renoncé ». Tout cela est vrai, sauf que, évidemment, le rescapé du texte ancien qu'il place en italique dans l'essai finalement publié est une fausse ruine, comme les aime beaucoup Jean-Michel Mario, c'est-à-dire c'est un faux rescapé reconstitué. Mais ce qui est émouvant pour moi, c'est ce geste d'abandon. C'est cette manière, parce que ce texte pas publié est évidemment beaucoup plus, d'abord beaucoup plus beau. Il y a là des phrases à l'allure toute michonienne. On est aussi dans le même moment, vie minuscule. Je vous lis celle-ci, qui parle de lui. Ses parents l'avaient placé là afin qu'il fût conduit à la première communion sans qu'il faisait à s'en soucier. Car de la religion, il ne se souciait guère, la mère un peu, par bouffée, mais d'une religion plutôt mérovingienne et frivole. Pourquoi ne pas garder ça? Pourquoi renoncer à cette forme de beauté littéraire? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, de plus impérieux dans le travail de l'historien qui s'opposerait à ceci? Précisément, ce dont Claude Simon l'avertit au début. Et précisément, je dirais que l'échec de la tentative d'Ego Histoire, c'est qu'il ne s'agit de rien d'autre que de souvenirs. Et les plus désordonnés qu'ils soient, et qu'en plus, on a demandé à des historiens qui étaient au fait de la notoriété de se dire, et de se dire en faisant confiance à leurs propres souvenirs. Il eût mieux valu renoncer complètement, mais ceux qui l'ont finalement fait, eh bien, au moins, peut-on leur être gré d'avoir exprimé leur embarras. Cela dit, ils ont été ciblés, flingués, en fait, par une assertion définitive de Pierre Bourdieu, disant que tout cela, c'était le récit sans méthode de vie sans histoire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont peut-être cherché à documenter leurs souvenirs, à rassurer les défaillances de la mémoire individuelle par le recours à la conservation de l'écrit, mais aucun n'a fait de l'enquête dans ses archives personnelles le ressort, le fil narratif de son propre récit. Et en ce sens, tous les égo-historiens contrevenaient aux règles du jeu édictées par Pierre Nora, aucun ne faisait son métier en se racontant. Et c'est là où je voulais en venir. Le métier des historiens, il consiste en quoi ? Il ne consiste pas à faire parler les archives, à leur donner la parole, à les toucher du doigt, à les montrer, à les mettre en ordre, autant de gestes que mime le roman d'archives, mais bien à construire un discours critique sur la production documentaire elle-même. Tel est, me semble-t-il, le malentendu globalement foucaldien qui se met en place dans les années 1980. Claude Simon parle, dans sa correspondance, de l'excitation d'avoir touché l'histoire du doigt, mais cette compulsion des archives, c'est le contraire de l'expérience documentaire. Et de ce point de vue-là, effectivement, je ne reviens pas sur la discussion nous a dit Johann Farber sur cette archive comme corps conducteur dans laquelle passe l'intensité du réel. C'est effectivement un thème littéraire et poétique très profond. C'est ce qui fait dire à Claude Simon dans sa correspondance avec Jérôme Lindon qu'il cherche le vécu écrit. Mais précisément à ce moment-là, et je vais y revenir, Jérôme Lindon lui fait un reproche politique. Et ce reproche politique, c'est d'avoir un peu bousculé le témoignage d'Orwell devenu haut dans le quatrième chapitre des Géorgiques. Et ce reproche politique, il était, me semble-t-il, sérieux. Parce que avoir un rapport critique aux archives, qu'est-ce à dire ? Il y a des passages très. Il y a des pièces intéressantes dans l'exposition à Beaubourg, dont Dominique Viard est le commissaire, sur la préparation des Géorgiques. Et on voit effectivement qu'il y a des lettres de Claude Simon qui demandent notamment à des fonds d'archives, archives départementales, de lui envoyer tout ce qu'ils ont sur la Pont-Saint-Michel. Et il y a effectivement la mise en scène de cette théâtralité, même, puisque vous savez, à un moment, il va retrouver un secret de famille qui est dans un placard qui était derrière derrière une cloison. Et donc, ainsi, enfle la masse d'archives qui est reçue ainsi de manière informe. Je voudrais mettre cette scène-là en parallèle avec une autre que Yvan Jablonka, dans l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, dont on parlait aussi avec Dominique Viard avant-hier. Je rappelle que c'est l'histoire d'un petit-fils qui part en quête d'une histoire familiale qui n'avait, selon son père, laissé aucune trace, celle de la déportation et du meurtre de Marès et Idessa Jablonka, pourchassé comme communiste en Pologne, surveillé comme étranger illégaux dans la France de Vichy, traqué comme juif enfant. Et lorsque il dit à son père qu'il va mener cette enquête, le père répond à Ivan Jablonka, « Ah ben, c'est pas la peine, tu trouveras rien. J'ai déjà demandé. » Et Ivan Jablonka demande à son père, « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit, « j'ai envoyé des lettres, ça fait continuer, j'ai envoyé des lettres aux archives départementales en disant, est-ce que vous avez des documents sur Ignace Jablonka ?» Et la réponse était non. L'historien Jacques Blanquin, qu'est-ce que ça veut dire inventer ces archives? Ça veut dire aller les chercher précisément là où on ne pense pas qu'elles vont être. Martès et Idessa Jacques Blanquin étaient des immigrés juifs exilés à Paris en 1940. Donc, ils ont nécessairement laissé des traces dans le fichier de la Sûreté nationale du ministère de l'Intérieur, qui est un gigantesque fichier de 2,5 millions de dossiers confisqués par les Allemands en 1940, qu'il a envoyé à Berlin, puis fut saisi par les Soviétiques en 1945 et restitué à la France en 1990. Si on considère les grands-parents Jablonka comme des juifs de Ménilmontant, alors effectivement, on est dans un roman de Robert Bobet, on est dans l'ambiance des machines à coudre, de l'accent yiddish, et on peut envoyer des lettres aux archives départementales, et on dira non, il n'existe pas. Mais si on se souvient de ce qu'est, à ce moment-là, un clandestin communiste, recherché par la police. Alors on se dit, mais nécessairement, la police les surveillait. Et donc on trouve, évidemment, dans les fichiers, de quoi les documenter. Voilà très exactement le geste historien. Écrire face aux contemporains, mais que l'on ne cesse de mettre à distance, précisément pour ne pas se laisser contaminer par lui. Le contemporain, il est là, il est devant nous. Mais il est devant nous objectivé. Et justement, c'est ce que dit Carlo Ginzburg, il faut stériliser ces instruments d'analyse. C'est une métaphore chirurgicale qui me touche, sans que je comprenne vraiment pourquoi elle me touche. J'ai compris pourquoi elle me touchait lorsque j'ai lu, il y a 2 ans, Le Beau Danger de Michel Foucault. Michel Foucault rappelle qu'il est le fils du chirurgien. Et ça m'a fait me souvenir que moi-même je suis fils d'anesthésiste. Foucault dit que pour lui, écrire lui est une activité extrêmement douce, feutrée, et il s'étonne qu'elle puisse paraître agressive à ses lecteurs. Mais peut-être parce que, dit-il, voilà, je suis le fils du chirurgien, pour qui la seule parole qui vaille était celle du diagnostic, qui nomme et qui ordonne, et qui, par cette, je cite, « vieille hérédité du bistouri », exprime son exigence dans une écriture qui incise et met à jour, qui fait apparaître un foyer de lésion, ce que Foucault appelle le cœur vénéneux des choses. Alors, je voudrais ici poser une question précise, clinique, au géorgique, de Claude Simon. C'est la question du prélèvement. Hideux, hein, comme mot, hein, on dirait vraiment des analyses médicales, mais c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire, comment il prélève justement ces archives pour les composer? Alors, on sait que l'usage des italiques, en particulier, est particulièrement retors, puisque ce ne sont pas des digues qui séparent la parole d'autrui, mais les fondrières du texte, dans la mesure où, je cite Lucien d'Avenbach, dans la mesure où, opérant la fusion entre 2 personnages ou 2 moments de la vie d'un même personnage, il prépare toutes les contaminations à venir. Puisque Serge va lire un passage de Léonard et Machiavel tout à l'heure, je me permets d'en dire un mot. Je me souviens très exactement du moment où j'ai éprouvé la possibilité à l'oreille de ce livre, en faisant teinter à l'une, puis à l'autre, des textes, respectivement de Léonard, puis de Machiavel, consacré au motif du fleuve, et à chercher à savoir si ce timbre s'accordait, puis à me demander, au fond, de quelle réalité historique, à quelle réalité historique renvoyait cet accord. Entendre sonner les textes de Léonard, puis de Machiavel, nommer contemporanéité le savoir efficace qui résulterait de leur accord, et tenter d'en faire le récit, c'était cela, au fond, raconter du même rythme une histoire et l'incertitude d'une histoire et l'inquiétude d'un historien à en rendre compte. Mais toute la question, c'était de savoir si l'historien est autorisé à laisser son propre texte s'animer au rythme de ceux qu'il cite, au motif que cela lui permet, évidemment d'un même mouvement, de transmettre un savoir et de partager une émotion. Et cette question, savoir où est-ce qu'on place ces petites digues que sont les digues, et quand on peut se permettre de les lever un peu pour que l'ensemble du texte s'anime du même rythme, c'est une question qui n'est pas que stylistique. C'est une question qui est poétique et politique au sens où Michel de Certeau, effectivement, le thématise dans l'écriture de l'histoire. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est un discours qui comprend son autre, c'est-à-dire qui va se l'incorporer au motif qu'il le comprend mieux que lui-même. C'est sa souveraineté. Et c'est évidemment pour cela que la souveraineté despotique de Claude Simon, dans ce roman, à mon avis, peu républicain qu'est géorgique, eh bien, les met évidemment au défi de leur propre pratique. Alors, je voudrais en donner quelques exemples pour terminer. Cette manière Claude Simon, justement, prélève les textes et quel défi il adresse aux historiens en composant une telle phrase. C'est à la page 57 de la première partie des Géorgiques. À bout de munitions, il réussit à s'enfuir de Corse à la faveur de la nuit en déjouant la surveillance de la flotte anglaise. La campagne est déserte et plate, d'un gris vert sous le ciel gris. Ça et là pointe le clocher d'un village. De loin, le bruit des explosions est gris. Le 16 du mois d'octobre 1793, à midi, à l'heure précise où la tête de la reine tombait sur la place de la Révolution, Carnot, Jourdan, silencieux, marchaient avec la moitié de l'armée et laissant derrière eux le vide vers le plateau de Vatigny. La mort a une couleur de salissure, gris fer, charbonneuse et noirâtre dans le vert tendre. Il écrit de Paris le 24 devant Taureau, dont 3 à un ami. Je reprends. Alors, je fais comme Michel, des trucs hideux sur le plan littéraire. C'est-à-dire, je coupe, alors, d'où ça vient ? Vous voyez bien, au début, la première phrase, à bout de munitions, il réussit à s'enfuir, donc ça, c'est plutôt LCM, d'accord ? C'est le général. Et puis, il y a des phrases, disons, de seuil indistinct, qui vont, d'une certaine manière, noyer l'ensemble dans une couleur uniformément grise, qui est la couleur de la guerre. Et puis une autre manière, effectivement, de faire rimer l'histoire, c'est de l'envelopper, l'enchasser dans un système d'allitération, là en l'occurrence en V, hein, le vide vers le plateau de Vatigny, la mort et une couleur de salissure, le vert tendre, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, de manière subreptice, Simon, son maître évidemment d'italique, a incorporé une phrase de Michel. Le 16 du mois d'octobre 1793, à midi, à l'heure précise où la tête de la reine tombait sur la place de la Révolution, Carnot, Jourdan, silencieux, marchait avec la moitié de l'armée et laissait derrière eux le vide vers le plateau de Vatigny, la mort et une couleur de salissure, etc. Cette phrase de Michelet est très belle. Où est-ce qu'il cesse d'être historien ou de l'être seulement ? Non pas lorsqu'il, je parle de Michelet, à ce moment-là, dans ce passage de l'histoire de la Révolution française, non pas lorsqu'il dit que le 16 du mois d'octobre 1793, à midi, à l'heure précise, où la tête de Marie-Antoinette tombe, Carnot, Jourdan, etc., marche vers Vatigny, ça on peut le remarquer, mais il l'ajoute juste, marche silencieux. Peut-être qu'il rigolait. Hein. Silencieux, ça veut dire qu'effectivement, nous sommes tous pris dans une phrase où on sait ce qui est en train de se passer. Et puis ça continue. Et ça continue en incorporant là une autre des archives dont dispose Simon, et qui sont effectivement des archives du général. Il écrit de Paris, le 24 ventose en droit à un ami. Je sens tout le poids de la nouvelle marque de confiance que m'a donnée la Convention en me nommant au comité de gouvernement. Depuis que j'ai eu le plaisir de vous voir, il m'est arrivé bien des aventures et je ne sais pas comment j'existe encore. Je me suis formé de nouveaux liens. J'ai épousé en seconde noce une ancienne amie qui est plutôt une campagne que sa solitude, son arrivée à Naples de nuit, au milieu, etc. La différence avec Michelet, ou avec Orwell, c'est que ces archives, elles sont indisponibles. Simon en dispose souverainement. On ne peut pas vérifier l'état, effectivement, d'organisation de son texte qui incorpore, donc, qui comprend son autre pour en faire un style qui est simonieux. Certains chercheurs ont eu accès à quelques pièces des archives, notamment Georges Raya, dans un des chapitres de ce livre qui s'appelle Roman d'archives, et on peut comparer effectivement ce que je viens de vous lire avec une lettre réelle, historique, du général Lacombe Saint-Michel. Du 24 ventose au général. Visible de JR. Je reçois, mon cher général, la lettre que vous me faites l'amitié de m'écrire le 15 ventose. Je sens tout le poids de la nouvelle marque de confiance que m'a donnée la Convention en me nommant au comité de gouvernement. Les temps de révolution sont des moments d'orage. Si dans le temps ordinaire, l'homme dévoué à sa patrie peut être à la hauteur de sa besogne, il ne peut pas s'en flatter lorsqu'un seul homme a à diriger 12 armées, mais se dévouer entièrement à la chose publique. Et là, c'est très long. C'est une rhétorique républicaine, et ça, évidemment, ça n'intéresse pas Claude Simon. Il passe tout de suite à la fin de la lettre. « Depuis que je n'eus le plaisir de vous voir, il m'est arrivé bien des événements, bien des aventures, mais je ne sais pas comment j'existe encore, je me suis formé de nouveaux liens, j'ai épousé en seconde noce, etc. » Donc, ça veut dire évidemment, vous voyez, quand Simon ne fabule pas, mais il va souverainement, ce qui est une forme, effectivement, d'historicité que les historiens ne se permettraient plus, eh bien, lisser sa phrase pour, effectivement, faire donc lever les digues pour, effectivement, avoir un seul et même phrasé. Ce qui est éliminé, l'emphase, la rhétorique datée, les marques du style, tout cela, évidemment, qui permettrait à l'historien d'écarter l'objet, de l'objectiver comme précisément une archive. C'est-à-dire pas quelque chose que l'on va toucher et dont on va fébrilement partager l'émotion, mais précisément comme une chose à construire. Ça y est, je me souviens où j'ai lu la phrase des Géorgiques que je croyais avoir choisie pour mon exemple. Et où l'on voit miroiter, vous vous en souvenez, les fines particules couleur rouille aux facettes scintillantes et dorées comme du mica. Semblable à ce poudroiement de marbre que LSM voit miroiter sur la baie de Naples et qu'un avant-texte des Géorgiques, publié dans la revue La Nouvelle Critique en 1977, republié dans les derniers cahiers Claude Simon, le régicide décrivait comme poussiéreuse, comme recouverte d'une pellicule d'infinitésimale et scintillante particule de marbre. Ce que je croyais être l'exergue de ma maîtrise était en fait l'exergue d'un livre ordinaire, mais qui m'a beaucoup plu. Il est paru au moment où je faisais mes études, et puis c'était mon premier prof. Voilà. Joël Cornette, un révolutionnaire ordinaire. Benoît Lacombe, négociant, 1759-1819. Voyez son embarras. C'est un historien ordinaire. Il commence sa thèse sur, effectivement, une biographie d'un négociant de vin à Gaillac qui va devenir un sans-culotte à Albi, et puis qui ensuite va être un notable qui, en 1819, va parcourir ses vignobles en calèche avec une profonde mélancolie qu'il va exprimer dans les 3500 lettres de ses archives. Et il était content, cet historien, il faisait son travail tranquillement. Et en 1981, il est géorgique. Et en plus, c'est un aïeul de son Benoît Lacombe. Et évidemment, c'est une manière... faut nous comprendre aussi, d'accord. On aime bien être ringardisé, mais enfin là, à ce point-là, c'est brutal. C'est quand même à vous décourager, c'est quand même à vous couper la parole. Bon. Il est né en 1783, à 23 ans, commissionnaire en vin de Bordeaux. Il est en 1793, à 33 ans, ardent révolutionnaire à Gaillac. Il est en 1816, à 56 ans, notable mélancolique, dévoué au trône et à l'autel, visitant en calèche ses vignobles, ruminant un passé où planait le couteau tranchant de la Révolution. Voilà comment, évidemment, est amené, à ce moment-là, Joël Cornette à, d'une certaine manière, raconter son histoire de Benoît Lacombe. Et il termine ainsi dans sa conclusion: comment rendre compte de la continuité d'une vie confrontée à la discontinuité de l'histoire, tissée d'une multitude de vies continues. On voit bien comment, quel est l'effet, d'une certaine manière, là, Claude Simon, directement, avec ce hasard archivistique qui fait que Benoît Lacombe et Lacombe Saint-Michel étaient de lointains cousins. Et comment, d'une certaine manière, cette délicatesse de l'historien face à la part du mort, à son autre, qu'il comprend, contraste tout de même avec, justement, la souveraine et violente appropriation simonienne avec laquelle il prélève des fragments de la Catalogne libre de George Orwell dans le chapitre 4. Donc, je voudrais dire un mot. Pourquoi ça déplaisait à Jérôme Lindon? Alors bon, il y a une histoire éditoriale, hein. Vous savez, à ce moment-là, Simon était au point de signer avec Gallimard, ça s'est pas fait, bon voilà, c'est ça aussi un écrivain. Donc à ce moment-là, Jérôme Lindon, ils sont en froid. Bon. Mais il y a autre chose. Lindon lui dit, lui écrit, je crois que je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu traites Orwell. Même si, bien sûr, c'est pas Orwell, c'est où, mais enfin, tu prends l'hommage à la Catalogne et tu le recomposes entièrement, mais c'est pas bien. Alors, ça veut dire quoi, c'est pas bien? Comment, qu'est-ce qu'on pourrait, quel sens ça a une critique historique de Claude Simon, qui ne serait pas celle dont Dominique Viard parlait, de la vieille Sorbonne, de ramener aux sources? Mais enfin, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que la mise en beauté de la littérature la rend invulnérable? C'est une question aussi, tout de même, est une question pour les sciences sociales. Vous savez que dans le quatrième chapitre des Géorgiques, Claude Simon reprend son expérience de la guerre d'Espagne, déjà écrite dans le Palace, en 1962, mais la reprend au crible de l'intertexte orwellien, en réécrivant hommage à la Catalogne. En septembre 1936, c'est-à-dire à peine 2 mois après le déclenchement de la guerre civile et 3 mois avant l'arrivée d'Orwell, le jeune Claude Simon, il avait 23 ans, Orwell avait 33 ans à ce moment-là, guidé par des copains communistes de Collioure, se rend à Barcelone. Dans sa biographie, Mireille Calbruber décrit ce portrait de groupe des pêcheurs de Collioure que suit Claude Simon, notamment en publiant un émouvant brouillon, enfin des notes de l'écrivain, où il décrit ceci, les surnoms, Popote, Vigne Vieille, Mounine, Fromage Blanc. C'est ceux qui vont s'engager quand même, hein, qui vont partir. Popote, c'est Louis Montargès, chef de la cellule communiste de Collioure. Alors, évidemment, on sait, on retient ce que Claude Simon va en dire. Cette expérience, dit-il dans un entretien accordé en 1985 à Marianne Alphand, c'était assez excitant et lamentable à la fois. J'ai compris en 15 jours, il a fallu 3 mois, bon voilà. Je repars très vite. Au fond, j'étais là-bas un peu en voyeur, ce qui était un peu indécent. Et donc, Orwell est dans le texte de Simon un contre-modèle de son art poétique et politique, dans une visée clairement polémique. Le tort d'Orwell, je dirais pour reprendre le début de Le Vent, son idiotie, c'est d'occulter la sensation au profit de l'explication. Autrement dit, en voulant à tout prix donner un sens à son étrange aventure espagnole, Orwell falsifie ainsi son expérience. Cette erreur n'est pas commise par le général LSM qui, à la fin de sa vie, renonce à mettre en ordre ses écrits, les laissant à l'état fragmentaire dans lequel l'oncle Charles les lègera à son neveu. C'est à toi, si tu veux, c'est un fatras. C'est à la fois fascinant et fastidieux. Bon. L'hommage à la Catalogne, c'est pas ça. C'est un récit qui est publié en 1938. Qu'est-ce que lui reproche Simon ? Visiblement, il écrit, ou plutôt il parle, à l'intention d'un certain public, un public dont il connaît les penchants, les opinions, pour peut prévoir les réactions. En fait, il est constamment préoccupé de l'effet produit. Alors oui, L'hommage à la Catalogne est écrit en 1938 par George Orwell, non pour comprendre son expérience, mais pour justifier un engagement partisan, pour mobiliser une opinion publique, pour alerter sur une situation au moment où il écrit « Ses compagnons, ses camarades du Poum sont accusés de fascistes par la gauche anglaise et ils croupissent en prison et ils sont menacés de mort ». Alors oui, Orwell veut créer un certain effet. Alors oui, il est constamment préoccupé par les faits produits, pour reprendre l'expression de Claude Simon. Pourquoi j'écris ? Orwell, 1946. Ce à quoi je me suis le plus attaché au cours de ces 10 dernières années, c'est à faire de l'écriture politique un art. Ici, je crois que l'écart est le plus fort entre l'art du roman et celui de l'histoire. L'historien prendrait un texte de 1938 sur 1936, non pour lui faire de reproches, encore moins pour en faire une archive qu'on remploierait, mais pour l'historiciser. Ça suppose une neutralité bienveillante, ça suppose de renoncer à interpréter les textes comme des témoignages, même pas comme des expressions de la croyance, mais comme des actes. Ainsi, on ne doit pas se demander ce qu'exprime un auteur, mais ce qu'il fait en disant ce qu'il dit et de la manière dont il le dit, ou plus précisément, ce à quoi il s'affaire en disant ce qu'il dit. Les convictions d'Orwell, d'une certaine manière, on voit bien que Claude Simon veut les mettre en pièces, véritablement. Ses espoirs, ses expériences de fraternité et de socialisme anticipé, ses tentatives pour comprendre, pour donner un sens à ce qu'il a vécu en Espagne. Tout cela est comparé à l'absurde bric-à-brac qu'est le contenu de la vieille valise usée, éventrée, cabossée d'un émigrant. C'est la fin du chapitre. C'est la valise lamentable et dérisoire d'un homme expulsé lui-même. Claude Simon avait passé la frontière à Portbou, sans encombre. Je parlais de Walter Benjamin au début de cette intervention qui s'achève. On sait qu'en 1940, il ne put, quant à lui, passer la frontière. Je me sens personnellement requis par les valises éventrées, notamment celles qu'il a laissées là. Et je lis aussi Claude Simon pour être lu par lui, pour comprendre. ce à quoi on sait faire, ce à quoi on s'affaire lorsque on écrit ce qu'on écrit. Quelques mots pour conclure, tout à fait. Les archives dans le roman simonien passent de main en main, et sa prose s'approche au plus près de la peau tavelée de ses mains noueuses, qui prennent la matière et la texture de ses papiers, qu'elle froisse. Plus précisément, j'allais dire la caméra, passe sans cesse de la main qui écrit, celle du général, à la main qui feuillette, celle du général aussi, mais aussi celle du narrateur. Le soleil éclaire d'un jour frisant la main qui feuillette les cahiers, forme un registre aux pages couvertes d'une écriture régulière. Voilà ce qui donne tout son sens au repentir de la scène d'exposition, cette extraordinaire exphrasis d'un tableau qui n'existe pas, mais qu'on le reconnaît pourtant, et que l'on reconnaît inévitablement, et que l'on attribue à un nom qui s'impose sans être dit David. Et vous savez comment ça se termine? Par la force du repentir, où Claude Simon, je ne dis pas parce qu'on n'a plus le temps, Claude Simon dit au fond, c'est le moment où il reçoit la lettre, mais on ne sait pas si de sa main, eh bien, il l'accueille ou il la congédie. Et il y aurait un repentir dans cette image. Et tout, d'une certaine manière, est dans cette hésitation, dans ce battement entre la main qui accueille et celle qui congédie. Faut-il, pour l'historien, pour l'écrivain, accueillir le contemporain ou le rejeter, le congédier? Les deux, évidemment. Et qui se souvient de la fin du dimanche de Bouvines? Qui se souvient qu'à ce moment-là, 1973, Franco n'est pas là? Et que ça se termine sur un discours de Franco, sur un discours sur la théologie de la guerre. Parce que c'est bien joli ces histoires d'Ordali, de Philippe Auguste, de la guerre fraîche et joyeuse, du Moyen-Âge. Mais voilà les derniers mots de Duby. Et voyez comment, peut-être aussi, c'est cette bibliothèque-là qui est celle de Claude Simon. Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le dieu de l'ordre établi, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts un soir à Brunette, avait autrefois plané sur Bouvines. Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Le tableau est inachevé, et je voudrais juste dire pour terminer que ce geste-là, c'est un geste de travailleur. Serge Bonnery a trouvé les mots justes dans son triptyque pour Claude Simon pour décrire ce passage de main en main qui est aussi une manière de récuser l'inspiration. Dans le discours de Stockholm, Claude Simon affirme, on a commencé par là, et pour peut-être terminer par là. Comme on voit, je n'ai rien à dire au sens sartrien de cette expression. D'ailleurs, s'il m'avait été révélé quelques vérités importantes dans l'ordre du social, de l'histoire ou du sacré, il m'eût semblé ridicule d'avoir recours pour l'exposer à une fiction inventée au lieu d'un traité raisonné de philosophie, de sociologie ou de théologie. Elle est étrange, cette phrase, pardon, elle est un peu retorse quand même. Parce que les vérités en matière de sciences sociales ne sont pas révélées. S'il m'avait été révélé quelques vérités en histoire, en théologie, alors théologie passe encore, sur l'ordre du social, de l'histoire ou de la philosophie, je les aurais exposées dans un traité raisonné de philosophie, de sociologie ou de théologie. Où est passée l'histoire? La sociologie n'écrit pas des traités, elle écrit des enquêtes. Donc, cette nature du labeur que Claude Simon accorde à la prose littéraire pour pourquoi la refuserait-on au travail des sciences humaines? Sans doute parce que, d'une certaine manière, tout est travail, et que ce travail-là, travail des mains, eh bien, il expose lui-même au travail de l'art. Aussi faut-il ultimement peut-être opposer le peintre à ce dialogue entre le romancier et l'historien. C'est le peintre qui s'intercale. Et je dirais pour terminer un entretien de Pierre Soulages qu'il a donné au Temps en 2009. Mais je ne suis pas un artisan. J'ai eu une discussion avec Georges Duby, le grand historien du Moyen-Âge. Il s'émerveillait devant l'artisanat. J'ai eu le même débat avec l'écrivain Claude Simon, qui affirmait « je travaille comme un artisan ». Je n'étais pas d'accord. Je lui disais ce que j'avais aussi dit à Georges Duby. « Tu oublies une différence fondamentale entre ce que nous faisons et le travail des artisans. Nous, nous ne savons pas ce que nous allons faire, alors que l'artisan le sait. Il sait qu'il va faire une poterie. Il sait comment la faire. Ou il sait qu'il va faire des bottes et il sait comment il va les faire. Il connaît l'objet qu'il va produire et il sait comment y arriver. Un artiste, ce n'est pas du tout cela. Il ne sait pas ce qu'il va faire, et j'ajoute, ni ce qui va se faire. Soudain, quelque chose apparaît, qui est d'autant plus significatif qu'on ne s'y attend pas.